Radio Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal de la mi-journée dont voici les titres. 14 morts, bilan d'un incendie survenu cette nuit à Founou dans la ville de Bukavu au sud Kivu. Selon nos sources, le drame s'est produit près de l'église Founou dans le quartier Mossala. Un feu d'origine inconnue s'est déclaré alors que les victimes étaient endormies. Restez branchés pour suivre les détails dans un instant. La séance plénière devant examiner la motion de défiance contre le gouverneur de province est en cours en ce moment à l'Assemblée provinciale de la Tchopo. Cette séance se déroule en l'absence du principal concerné qui, lui, se trouve toujours à Kinshasa. L'invité de ce journal est le président de l'Association pour la promotion de la métrologie et de la normalisation en RDC, Apromène. Il s'exprime sur l'urgence de la normalisation en RDC. C'est quoi la normalisation? Quelle est son importance? Pertin Toumba répond à toutes ces questions dans un entretien avec Josué Kefebe. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour. La ville de Bukavu est endeuillée par la perte de 14 personnes suite à un incendie au quartier Mossala Founou sur avenue Mayendeleo dans la commune de Kadutu. Le feu s'est déclaré vers minuit. Les victimes sont issues de deux familles qui vivaient dans une même concession. L'origine du feu demeure inconnue selon les habitants du quartier que nous avons contacté. Reportage.
Les volontaires de la Croix-Rouge sont arrivés sur les lieux du sinistre où, avec le jeune du quartier, ils ont sorti le corps calciné des décombres. L'émotion était vive autour de ce corps méconnaissable, étalé par terre et recouvert de bâches. Écoutons ici le chef de quartier qui supervisait les opérations de fouilles, Patrick Lubala.
Nous sommes sur l'avenue Mayendeleo où il y avait un incendie, la nuit du dimanche au lundi, où nous sommes en train d'évacuer des corps jusqu'à présent. Nous sommes à 14 corps. Cette maison est totalement incendiée et 4 détruites. Donc nous sommes en train d'évacuer les corps jusqu'à la morgue de l'hôpital provincial de Bukavu.
Ce énième cas d'incendie relance la problématique des constructions anarchiques dans la ville de Bukavu. Lorsqu'une maison brûle, c'est toute une avenue qui s'embrase. Par ailleurs, la ville n'est pas dotée d'un camion anti-incendie.
Nous venons de le dire tantôt en titre, la séance plénière devant examiner la motion de défiance contre le gouverneur des provinces est en cours en ce moment à l'Assemblée provinciale de la Tchopo. Cette séance se déroule en l'absence du principal concerné qui, lui, se trouve encore à Kinshasa. Ce qui veut dire qu'il ne pourra pas présenter ses moyens de défense. Comment l'Assemblée provinciale interprète cette absence? Les points dans ce résumé de Jacques Moukonkole, rendu par Babel Mpongo Massimango.
Sur 29 députés que compte l'Assemblée provinciale de la Tchopo, 18 sont présents dans la salle. Les 11 autres sont donc absents, de même que le gouverneur de province, appelé pour répondre aux principaux griefs retenus contre lui. Mathéus Kanga, président de l'Assemblée provinciale, a tout simplement constaté son absence qu'il interprète comme un outrage à l'endroit de l'Assemblée provinciale, parce que selon lui, il est censé se retrouver dans la salle. Et pour le président de l'Assemblée provinciale, la vice-ministre de l'Intérieur a signé l'ordre de démission en vue de leur retour à Kisangani en date du 24 octobre dernier. Curieusement, Paulin Lendongolia n'est pas rentré samedi comme lui. L'Assemblée constatant son absence et poursuit la procédure. Cette dernière a été suspendue pendant 5 minutes faute quorum de 2/3 requis pour le vote selon le règlement intérieur. À la reprise, un autre député est venu s'ajouter, ramenant ainsi le nombre à 19 votants. Les députés sont en ce moment en train de voter l'un après l'autre sur appel nominal. Les résultats vont intervenir dans les instants qui suivent.
Nous venons de l'apprendre, 18 députés provinciaux sur 18 viennent de voter la motion de déchéance du gouverneur de la Tchopo. Attribution ministérielle en RDC, sortir du flou pour améliorer l'efficacité de l'action gouvernementale. C'est le titre d'une note d'analyse publiée par l'Institut de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence Ebouteli parvenue ce lundi à Radio Okapi. Selon Ebouteli, avec la nomination du gouvernement Soumino à 2 début août, certains ministères ont été créés, d'autres fusionnés. mais sans ordonnance d'attribution à jour. Le risque de chevauchement et de conflits entre ministères aux compétences dupliquées reste élevé, souligne l'Institut de recherche, d'où l'urgence d'un texte clair aligné sur la nouvelle configuration. Les détails dans ce condensé de Grace Hamzati, rendu par Alain Hirong.
Le gouvernement Souminois 2 fonctionne-t-il sans boussole claire? S'interrogeait Boutelli. Derrière la question se cache un mal plus profond, les retards répétés dans la mise à jour des ordonnances fixant les attributions des ministères. Un problème qui traverse tous les gouvernements depuis 2019 et qui affaiblit la cohérence de l'action gouvernementale, affirme Boutelli. Cette situation complique à la fois la répartition claire des rôles et l'évaluation du travail de chaque ministre. Quant au ministre délégué, la composition du gouvernement Souminois 2 illustre bien cette complexité, précise Boutelli. 5 ministres délégués ont été nommés, à part celui des personnes vivant avec handicap. Pour les autres ministres délégués, l'intitulé de nomination délimite un domaine d'intervention sans préciser les contours. Qui signe les arrêtés? Qui coordonne les services? Qui représente la RDC à l'international? En l'absence d'une ordonnance d'attribution actualisée, les chevauchements et les zones grises persistent, déplore cette structure. Une autre question que pose Boutelli, la présidence, un exécutif dans l'exécutif? L'un des aspects les plus révélateurs de cette complexité réside dans la multiplication au sein du cabinet du chef de l'État des services et d'agences investis des missions relevant déjà des ministères de plein exercice.
Au Nord-Kivu, la situation restait volatile ce lundi dans plusieurs villages du territoire de Masisi. C'est entre autres l'agglomération de Niabiondo, en secteur Osso-Banyungu et le village Mbuyi, près de Mueso, en chefferie de Bachali. Selon plusieurs sources locales, ces entités ont été le théâtre d'attaques attribuées aux Wazalendo contre les positions tenues par les rebelles de l'AFC M23. Ces sources parlent de plusieurs civils tués. Les détails avec vous, Élisée Chikota Chivueta.
Dans le groupement Bachali Mokoto, le village Bouhi, situé à moins de 10 km de Mueso, sur l'axe menant vers Kashunga-Pinga, a été la cible d'une attaque dans la nuit de dimanche à ce lundi, indiquent plusieurs sources locales. Celle-ci dresse un bilan provisoire d'au moins 4 civils tués, pour la plupart des enfants. Les habitants ont passé la nuit dernière en brousse. Quelques autres ont fui vers des villages voisins. Ceci intervient après une autre attaque, toujours attribuée aux combattants voisins sur les positions des rebelles AFC M23 autour de l'agglomération de Niabiondo dans les secteurs voisins d'Osso-Bayungu. Durant toute la nuit de samedi à hier dimanche, de fortes détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans la zone, exacerbant la panique parmi les populations civiles. Ces attaques surprises n'auraient pas permis à la plupart des habitants de quitter le lieu. À quelques kilomètres de Niabiondo, une autre incursion a attribué au Wazalendo aurait coûté la vie à au moins 3 autres civils la nuit de vendredi à samedi dans le village Lucheberé. C'est un groupement Bobo dans le même secteur d'Osso-Bayungu. Plusieurs acteurs locaux plaident pour la restauration de la stabilité dans la zone.
Toujours au Nord-Kivu, des affrontements ont opposé dimanche matin les rebelles de l'AFC M23 à un groupe de jeunes armés identifié comme le Wazalendo à Kalangira, dans la chefferie de Bachwaha, à quelques kilomètres de Lubero au centre. Le gouverneur des provinces évoque un incident n'impliquant pas les FARDC qui continuent à respecter le cessez-le-feu conformément au processus de paix engagé à Washington et à Doha. Les détails avec Martial Papimukeba.
Les échanges de tirs se sont déroulés non loin de la zone où l'armée ougandaise est déployée depuis environ 8 mois pour empêcher la progression de l'AFC M23 vers Lubero centre. Selon un communiqué du gouverneur du Nord Kivu, l'incident serait parti d'un échange de tirs entre des jeunes armés regroupés à Kalangira, venus tenter de libérer 3 de leurs notables arrêtés et enlevés il y a 5 jours par un responsable de l'AFC M23 à Kisanga avant d'être conduit à QPC où il subirait des actes de torture. Les communiqués précisent que cet incident n'implique pas les FARDC qui affirment continuer à observer les cessez-le-feu. Le gouverneur du Nord Kivu dénonce toutefois l'installation depuis le 15 octobre des 2 nouvelles positions militaires de l'AFC M23 dans les villages de Vuvatama et Kanyamitala, une zone tampon d'interposition sous contrôle de l'armée ougandaise. Il évoque les risques d'une reprise des hostilités dans les sites des Lubero, tout en réaffirmant la détermination des FRDC à riposter à toute attaque contre leur position. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Province du Tanganyika, plusieurs maisons ont été visitées par des bandits armés dans la nuit de samedi à dimanche au quartier Joseph, commune Lukuga, dans la ville de Kalemi. Ils ont emporté des biens de valeur et d'importantes sommes d'argent. Des témoins rapportent que les malfrats ont tiré des coups de feu pendant plusieurs heures. On signale quelques blessés parmi les victimes et un des présumés voleurs tabassé par la population. Les points avec Paulin Munanga.
Parmi les victimes de ces cambriolages, il y a le chef d'avenue de la justice au quartier Joseph. Il a été violemment agressé par des hommes armés et en uniforme non autrement identifié. Il est blessé et hospitalisé. Il témoigne.
Il a fait comme à 2h du matin.
Vers 2h du matin, j'ai entendu des bruits de pas. Je suis allé au salon et à partir de la fenêtre, j'ai vu 7 personnes en tenue militaire et bien armées. Il y avait aussi 8 jeunes hommes. Au moment où nous avons commencé à crier, ils ont cassé la porte et se sont introduits dans la maison. Ils m'ont asséné avec un coup de marteau à la tête. Pour l'association Umoja Ninguvu, les bandits ont opéré en toute quiétude pendant plusieurs heures sans aucune intervention des forces de l'ordre. Cette situation inquiète la population. Nathan Mugisho est le coordonnateur provincial de cette ASBL dans le Tanganyika.
Au moins 8 maisons qui ont été cambriolées en l'espace de 4 heures de temps. Ça doit pousser à la réflexion. Les balles ont crépité. Qu'est-ce que nous devons demander encore à nos députés si au moins on peut énumérer des cas pareils? Qu'est-ce que nous pouvons dire encore aux autorités?
Nous ne sommes pas parvenus à avoir la réaction du maire de Kalemi et du commissaire provincial de la police du Tanganyika. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Situation similaire au Kasaï oriental où l'insécurité refait surface à Mbujimayi. Un homme a été tué hier dimanche dans la commune de Bipemba et 2 autres personnes blessées grièvement dimanche à Bipemba et samedi dans la commune de la Kanchi par des bandits armés. Aucun suspect n'est arrêté jusque-là. Les explications avec Esther Ndalafina.
C'était sous une pluie battante que les bandits armés ont fait irruption au domicile de Marcel Mbikaï, professeur de l'université officielle de Mbujimayi vivant au site Pemkao dans la commune de Bipemba. Ils ont tué par balle le policier commis à sa garde. Ces bandits ont ligoté le professeur avant d'emporter plusieurs biens de valeur. Le gouverneur de province s'est rendu sur le lieu dimanche matin accompagné de quelques membres du conseil provincial de sécurité. D'autres maisons de la commune de Bipemba, dont un centre de santé, ont été également visités la même nuit par les inciviques qui ont emporté l'argent, les médicaments, le matériel de travail et ont malmené les propriétaires de quelques habitations. Samedi dernier, à la cité Miba, un combiste a été grièvement blessé à son domicile par les personnes non autrement identifiées. Il est dans un état critique dans un centre hospitalier de la place. La police a ouvert une enquête. Une réunion de sécurité a été présidée le samedi dernier par le commissaire provincial de la police pour examiner la situation en présence du bourgmestre de cette municipalité. Contacté ce lundi, André Mbombo a indiqué que la police est chargée de protéger les personnes et leurs biens. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, avant d'aller plus loin, après une dizaine de jours d'arrêt de travail suite à la grève sèche décrétée, depuis le 13 octobre dernier, les enseignants de la province éducationnelle Maniema 2 ont repris le cours ce lundi 27 octobre. Ces derniers disent avoir reçu 2 mois de salaire comme il l'exigeait. Toutefois, ces enseignants demandent au gouvernement de faire correctement les suivis après la paie. Cela pour s'assurer qu'il n'y ait pas de retard pendant que le gouvernement décaisse à temps l'argent des enseignants. On écoute Jonathan Edongo Mulenda, permanent territorial du syndicat des enseignants du Congo Sieko et président de l'intersyndical des syndicats des enseignants de l'éducation nationale Kibombo 1 et 2, joint par Florence Kizalunga.
Les enseignants ont décidé de suspendre la grève momentanément. On était en train de réclamer qu'on paye 2 mois de salaire, chose qui a été faite. Mais jusque-là, on n'a pas vraiment des informations sur la mise en place de la mutuelle de santé dans la province du Maniema. On n'a pas encore vu clair, puisque même à l'heure où je vous parle, certains enseignants de certaines écoles réclament la prime de gratuité du mois de mai, juin, juillet, août, septembre 2025, les frais de fonctionnement des mois précités. Donc, toutes ces irrégularités font à ce que l'enseignant soit mal à l'aise. Le suivi est un élément très important sur la bonne gouvernance. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte pourquoi il y a de retard de paye et pourtant le gouvernement est en train de débourser 3 mois de salaire du coup. Donc, cette manière de faire décourage, met la vie de l'enseignant en péril. Voilà pourquoi nous sommes en train de demander que le gouvernement puisse faire les suivis et mettre fin à ce retard de paye. Paix soit-il, mais quand ça vient régulièrement, ça peut permettre que l'enseignant puisse s'organiser.
Actualité internationale.
La Côte d'Ivoire reste dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle au lendemain du scrutin, alors que la commission électorale indépendante a commencé dimanche 26 octobre à égrener les résultats du premier tour de la présidentielle de samedi. Le résultat complet devrait être proclamé lundi 27 octobre. L'organe poursuit la publication département par département et laisse entrevoir la tendance entre les 5 candidats en lice, le président sortant Alassane Ouattara, Jean-Louis Billon, Simone et Yvette, Henriette Lagou et Ayoudonk Melo.
L'invité.
Notre invité est Bertin Toumba-Bouloulou, président de l'Association pour la promotion de la métrologie et de la normalisation à RDC à Promeld. Il s'exprime sur l'urgence de la normalisation à RDC. C'est quoi la normalisation? Quelle est son importance? Bertin Toumba répond à toutes ces questions dans cet entretien avec Josué Kefebe.
Bonjour Bertin Toumba.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, dites-nous, c'est quoi la normalisation et en quoi est-ce important?
La normalisation, de manière simple, c'est l'activité qui consiste à établir les normes, à les faire connaître et à les mettre en œuvre. C'est une démarche qui est consensuelle pour faire face à des problèmes qui se posent de manière récurrente et à anticiper des solutions à des problèmes potentiels.
Alors, quand vous parlez de normes, vous faites allusion à quoi?
Ça, c'est une question très pertinente. Parce que pour les juristes, la norme, c'est tout document qui aide à mettre de l'ordre dans la communauté. La loi, c'est une norme. Le décret est une norme. L'arrêté est une norme. Nous parlons plus des normes consensuelles.
Les normes consensuelles, c'est-à-dire?
C'est ce que nous appelons les parties prenantes, les pouvoirs publics, le secteur privé, les milieux de l'éducation et de la recherche, les ONG intéressées, les organisations de défense des droits des consommateurs, et les évaluateurs de la conformité. En fait, ces parties prenantes sont représentatives de la communauté dans son ensemble. La normation est importante parce que elle découle de la prise de conscience des membres d'une communauté qu'un problème de manière récurrente se pose et il faut le résoudre. C'est ainsi que il a été mis en place des structures appelées organismes de normalisation qui ont pour mission, chaque fois qu'un besoin est exprimé, de réunir les membres de la communauté pour ensemble réfléchir et ensemble trouver des solutions pour une solution durable à un problème qui se pose de manière répétitive. Des questions liées à la sécurité, à la santé, à la précision de certains concepts. Bref, pour mettre de l'ordre dans la communauté.
Alors, actuellement, quel est l'état des lieux de la normalisation en RDC?
Contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, où il est clairement connu les organismes qui établissent les normes, dans notre pays, c'est un flou total. Quand nous organisons nos rencontres de sensibilisation, de formation, on pose la question, en RDC, qui élabore les normes? C'est un problème. Et aujourd'hui, dans le monde entier, il y a les principes sur lesquels tous les pays du monde, toutes les régions du monde s'appuient pour établir des normes. Et les effets sont là. Les principes de transparence, les principes de consensus, d'inclusivité, de respecter les règles pour établir ces normes-là. Et nous, notre part a été d'aller jusqu'au Parlement, expliquer aux parlementaires la nécessité d'avoir des lois sur la normalisation. En octobre 2014, une proposition de loi a été votée. Désolé de vous dire qu'à ce jour, cette loi n'a jamais été promulguée.
Cela fait quelques années déjà que vous militez pour la normalisation en RDC. Est-ce qu'il y a des avancées? Si oui, lesquelles par exemple? Sinon, quels sont les écueils dans sa mise en application?
Il n'y a pas beaucoup d'avancées parce que je dis que la promesse vient de totaliser 20 ans. L'année prochaine, nous allons commémorer ça. Mais en évaluant notre parcours de 20 ans, nous avons réalisé, nous avons fait notre part. Et il y a des filles de ce pays à un certain niveau qui ont compris, qui se sont approprié ce combat-là. Je cite l'honorable King Wadono. 14 ans après, le Congo n'a pas encore une loi pour gérer ces matières importantes.
Puisque vous parlez de plaider auprès du gouvernement, vendredi 24 octobre, vous avez lancé une série d'ateliers de sensibilisation sur l'urgence de la normalisation en RDC à l'intention des représentants du gouvernement et des institutions publiques. Quel est l'objectif de cette activité?
L'objectif principal, c'est qu'il faut, avant que cette loi ne soit publiée, qu'on puisse prendre au moins des dispositions provisoires afin de coordonner ces activités-là. Parce que il y a des enjeux. Le pays est en guerre avec ses opportunités, avec les investissements qui sont en train de venir. Le chef de l'État a déclaré à la réunion du 9 mai 2025 qu'il était normal, il n'était pas normal que le Congo qui s'appelle pays solution ne puisse pas disposer des normes environnementales qui travaillent sur l'eau, l'air et le sol. Vous voyez que même au niveau du chef de l'État, il sent qu'il y a urgence.
Alors, que faire pour normaliser la situation dans le pays et à qui cela incombe?
L'obstacle majeur, c'est la législation. Les textes qui résistent à la notion de notre pays aujourd'hui ne peuvent pas permettre la promotion de la normalisation comme outil de développement. Impossible. Les textes, d'abord, sont en contradiction avec les principes de base de la normalisation. Alors, les textes ont été établis depuis longtemps. Beaucoup de concepts ont évolué. Aujourd'hui, ça ne peut pas permettre à la normalisation dans notre pays de fonctionner comme outil de développement.
Merci, Bertin Toumbao.
Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à votre organisation, à votre personne.
C'était notre invité Bertin Toumba qui s'entretenait avec Josué Kefebe et c'est ce qui met fin à cette grande édition du journal parlé de la mi-journée qui a connu la coordination d'Élisée Chikota Chivueta, la supervision éditoriale d'Alain Hiron et la mise en ordre d'Alain Goy. Ce journal est disponible sur toutes nos plateformes numériques ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net.